Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur Radio France Internationale et France 24 dans les studios du Berlimont, la Commission européenne à Bruxelles. Alors, grande morosité et nervosité européenne en cette semaine en raison des incertitudes sur les conflits et tensions qui nous entourent et celles liées aussi à l'arrivée prochaine d'un Donald Trump à la tête des États-Unis. Nous parlons tout de suite de ces défis avec Stefano Sanino. Bonjour, vous êtes un Italien, secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure, c'est-à-dire vous êtes un peu le chef des ambassadeurs de l'Union européenne à travers le monde. Vous avez occupé divers postes dans la diplomatie italienne, au sein de la Commission européenne, et j'ai presque envie de vous demander si vous avez jamais vu autant de crises nous tomber dessus et à gérer en même temps.
Très honnêtement, pas vraiment. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a vécu pas mal de crises, mais un peu en séquence, l'une après l'autre. Mais donc, on est vraiment dans une situation dans laquelle on pourrait presque dire des crises permanentes. On parle de permacrise maintenant, pas seulement de polycrise, mais de permacrise parce qu'on passe d'une crise à l'autre. Donc, pas vraiment, on n'a pas vraiment vécu ce qu'on vit maintenant.
Et d'ailleurs, l'élection de Donald Trump aussi a été préparée par vos services, par tous les services de la Commission depuis cet été. En quoi ça consiste de préparer l'élection de Donald Trump et dans quel domaine on agit exactement?
Bon, évidemment, les États-Unis, c'est un grand partenaire, peut-être le partenaire le plus important de l'Union européenne. Et donc, un changement de présidence, c'est toujours un moment pour faire le point sur tous les différents dossiers que nous lie aux États-Unis, des questions de sécurité ou de politique étrangère, partie de défense, questions commerciales, questions énergétiques, questions de services financiers. Donc c'est un peu tout le spectrum, les différents sujets. Et on a essayé d'avoir une compréhension meilleure de ce que une présidence, soit une présidence Harris ou une présidence Trump, aurait pu dire pour nous, pour l'Union européenne, l'impact. Donc c'est de comprendre et de faire aussi comprendre aux États membres quels sont les enjeux.
Avec plusieurs scénarios, j'imagine. Et là, eh bien, celui qui est en train de se confirmer, c'est que ce républicain complètement décomplexé est en train de nommer des personnalités très isolationnistes. On a l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique, on a lancé un poker menteur. Hein, et nous, on a un jeu plutôt ouvert, d'ailleurs. C'est peut-être dommage. Est-ce que Trump nous perçoit, d'ailleurs, comme des rivaux exportateurs et dangereux, finalement, pour lui?
Non, je crois qu'il faut aussi disons, prendre les choses en perspective. Hein. Quand le président des États-Unis dit « America first », c'est aussi compréhensible. Chaque chef d'État et de gouvernement de quelque pays dirait la même chose, que son pays vient avant tout et les intérêts de son pays passent avant tout. Donc c'est compréhensible de ce point de vue, cette approche. C'est vrai que c'est une approche très poussée, avec une rhétorique très très forte, mais il faut regarder bien quels sont les enjeux, et c'est déjà un peu partie aussi du travail qu'on a fait, de bien comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment. Vous avez vu que pas mal de chefs d'État et de gouvernement ont déjà appelé le président désigné et ils ont pris les premiers contacts avec lui.
Mais peut-être en ordre dispersé, est-ce qu'il va y avoir unité des 27 ou vous craignez justement que chacun finalement aille dialoguer de son côté avec Trump, à la fois sur la diplomatie et sur le côté économique et que ce soit une cacophonie?
Moi, je ne crois pas que ce soit une cacophonie. Je pense qu'il y a une partie commune dans laquelle les États membres comprennent bien qu'il faut parler ensemble avec une voix unique. Parce que ça nous donne beaucoup plus de force dans la négociation. C'est un négociateur, c'est un businessman, donc c'est quelqu'un qui comprend qu'est-ce que ça veut dire un deal.
Et qui comprend ce que ça veut dire diviser pour mieux régner aussi.
C'est aussi vrai que vous avez, évidemment, avec les États-Unis, tous les États membres ont une relation bilatérale avec les États-Unis, donc on doit essayer, et c'est aussi partie de cette préparation, de sorte que tout le monde puisse lire la chose de la même façon.
Alors si on doit avoir affaire avec des droits de douane relevés, hein, ça a été très, très très clair dans le discours de Trump. Il va relever les droits de douane. On risque de se tourner vers d'autres horizons pour tenter d'exporter nos produits européens, comme l'Amérique du Sud et un traité du Mercosur qui est à signer. Il y a beaucoup de réticences de certains pays, la France, la Pologne, l'Autriche, par exemple. Comment nous perçoivent les pays d'Amérique du Sud, justement, concernés par la grande discussion et le grand déballage qu'ils entendent de notre côté ?
Je crois que tous les pays du monde, et pas seulement les pays de l'Amérique du Sud, regardent beaucoup à l'Union européenne. Parfois, on n'a pas conscience de notre force, de notre capacité d'avoir une influence soit dans la partie politique que dans la partie commerciale et économique. Et donc, ils nous regardent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de volonté de faire une espèce de travail ensemble. Là aussi, ce sont des pays qui essaient de maximiser leurs capacités, c'est qui dérivent de leur capacité de négocier avec nous. Si vous voulez, la chose qu'on est en train de voir, que c'est devenu beaucoup plus transactionnel un peu partout.
Donc le Mercosur, ça pourrait nous aider à avoir aussi un soutien politique par ailleurs ?
Je crois que si on arrive à trouver un accord, chose que j'espère que ce soit possible, ça pourrait donner évidemment aussi un coup de pouce politique à notre relation avec ces pays. Les relations sont faites de beaucoup de choses.
La crainte de l'administration Biden, c'est de voir Donald Trump réduire l'aide à l'Ukraine, voire couper court complètement à cette aide. Est-ce que les Européens auront la volonté et les moyens de suppléer à cette aide américaine si elle faisait défaut ?
Ça, c'est la discussion que, je dirais, c'est pas seulement ouverte, mais qui est déjà très, très présente dans les chancelleries européennes. Et si vous regardez aussi la dernière rencontre qui s'est tenue à Weimar avec un groupe des pays européens, plus la nouvelle, la haute représentante désignée, il y a une volonté de continuer à soutenir l'Ukraine. Le soutien à l'Ukraine, ce n'est pas seulement le soutien à ce pays, c'est aussi une ligne de défense pour l'Union européenne en tant que telle. C'est un enjeu très significatif sur le point de vue politique, du point de vue économique, et surtout du point de vue militaire.
Oui, parce que quand même, on a beaucoup progressé dans la production d'armes, mais on achète toujours 80% des armes qu'on envoie à l'Ukraine à l'extérieur. Donc, ouais. 50 pays de l'Union européenne, d'ailleurs, se sont prononcés en faveur d'euro-obligations pour financer une défense européenne. Dans le Club des 27, il y a des plus réticents, moins pro-Ukraine, pour justement mettre la main au portefeuille à cette hauteur et être capable de grands projets ?
Je crois qu'il faut distinguer un certain nombre de choses. Il y a un débat qui est commencé déjà et sur lequel on est très engagé de comment faire augmenter la capacité de défense européenne. Et ça, c'est visible aussi dans le fait, par exemple, que la Commission a désigné un commissaire pour la défense et que la présidente de la Commission a parlé d'une Union de la défense européenne. Donc, il y a déjà une convention et je dirais un engagement pour faire beaucoup plus dans les secteurs de la défense, de la production d'armement. Et ça pour notre sécurité et aussi pour la sécurité de l'Ukraine, évidemment. Ceci dit, la façon de financer tout cela, c'est quelque chose sur laquelle on est encore en train de discuter. Évidemment, les ressources qui seront nécessaires sont très, très importantes. Et de ce point de vue, il y a une discussion sur les différentes possibilités.
Oui, parce que les avoirs russes, ça ne va pas suffire. Il y a un moment où peut-être qu'un grand emprunt sera nécessaire, en effet.
Là aussi, la discussion sur la possibilité d'utiliser les emprunts russes est quelque chose qui a été...
Les avoirs russes gelés, hein, gelés pour expliquer pour nos téléspectateurs.
Et essentiellement, oui, il y a, pour être clair, il y a des biens russes qui ont été déposés chez une structure disons, qui gère tout ça pour les pays tiers et tout ça a été gelé avec les sanctions. Et donc la chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser...
Les intérêts de ces avoirs, mais pas le principal.
Exactement, pas la dette en tant que telle. Donc maintenant, il y a certains États membres qui disent qu'il faut aussi regarder à cela, il faut aussi regarder à la partie, disons, de la dette principale. Mais disons, c'est quelque chose qui n'est pas encore accordé, comme ce n'est pas encore accordé si on doit faire des eurobonds, donc
des
obligations, emprunts.
Il y a beaucoup de réticences. Alors, regardons quand même la situation sur le terrain, alors qu'on a passé les 1000 jours de conflit en Ukraine, et c'est évidemment une Ukraine qui s'enfonce dans l'hiver, comme nous le raconte Léo Patché.
Au millième jour de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe contrôle désormais près de 20% du sol ukrainien. Après avoir conquis un quart du territoire après le début de son opération en février 2022, Moscou a reculé sous la contre-offensive de Kiev 9 mois plus tard. Une douzaine de milliers de kilomètres carrés avaient alors été libérés par les forces ukrainiennes. Depuis, la Russie n'a fait que grignoter la ligne de front dans l'Est et le Sud, avant de gagner environ 1500 km² depuis le mois de juin dernier, sa plus forte progression depuis le début de son invasion. À Kiev, loin de la ligne de front mais régulièrement bombardée, ses étudiants rejoignent ce matin-là les salles de cours sous le son des sirènes d'alerte.
Pour moi, une journée en Ukraine, c'est bien sûr des sirènes d'alerte qui retentissent sans cesse. Chaque jour, de nouvelles explosions, des victimes civiles, des attaques constantes sur les infrastructures civiles et les bâtiments résidentiels. En fait, chaque jour est une lutte.
Dans les rues, ce mémorial improvisé par les proches de soldats morts au combat n'a cessé de grossir. Un rappel constant à cette guerre meurtrière.
Je pense à cette tragédie, au prix à payer et à la nécessité de continuer la guerre ou pas. On en parle beaucoup maintenant. Aujourd'hui, une journée dans la vie des Ukrainiens, bien sûr, c'est le travail, les loisirs, la danse ou encore le cinéma, mais en fin de compte, tout se résume à la guerre.
Les militaires ukrainiens ont surpris Moscou fin août en menant une incursion sur sa région frontalière de Koursk. Aujourd'hui, 600 km² de ces terres russes sont encore sous contrôle ukrainien.
Stefano Sannino, vous dirigez justement les ambassadeurs de l'Union européenne et vous recevez d'ailleurs leurs notes. Et vous craignez que les Ukrainiens ne puissent pas tenir un hiver de plus? Il y a des risques?
Et la situation sur le front, certainement, est très difficile parce qu'il y a une fatigue, il y a aussi la mobilisation des soldats, ça devient de plus en plus compliqué. Et les armements aussi commencent à être moins présents. Il y a un déséquilibre très fort entre les capacités militaires de la Russie et les capacités militaires de l'Ukraine. Ceci dit, il y a une volonté encore très très forte de la part des Ukrainiens de défendre leur territoire. Il y a une volonté aussi, en général, des Occidentaux de continuer à soutenir l'Ukraine. Je note que les États-Unis, le président des États-Unis Biden, a décidé de donner la possibilité à l'Ukraine d'utiliser leur armement sur le territoire russe. Jusqu'à maintenant, ils pouvaient seulement se défendre. Maintenant, il peut aussi attaquer sur le
avec les fameuses armes longue portée. Ouais. Vladimir Poutine vient de signer du coup un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire et brandit le chiffon rouge de l'arme nucléaire. Vous y croyez?
Il faut toujours être très sérieux quand on parle de tout cela parce qu'on ne peut pas sous-estimer les risques dans le contexte d'une guerre. Je crois qu'il y a une pression très très forte et aussi une pression chinoise très très forte sur la Russie de ne pas jouer avec l'arme nucléaire. Et la réaction a été très très dure. Mais je répète, la décision qui a été prise par le président Biden a été aussi la réaction à la décision prise par la Russie d'utiliser des soldats nord-coréens sur le territoire russe. Donc l'escalade militaire, c'est quelque chose qui a commencé à Moscou.
Lors de ces auditions devant le Parlement européen, la future chef de la diplomatie, donc Kaya Kallas, a exposé sa vision soutien inconditionnel à l'Ukraine et menace non dissimulée envers la Chine. Comment est-ce qu'on doit se comporter justement envers la Chine? Est-ce qu'on doit essayer de se dire que ça va être un allié ou finalement qu'elle est de toute façon dans le camp opposé?
On a déjà depuis quelques années, on considère la Chine comme un partenaire dans certains secteurs, mais aussi un concurrent économique et ce qu'on appelle un rival systémique quand il s'agit d'un certain nombre de sujets. Vision des droits de l'homme, vision de la démocratie, vision de l'économie des marchés. Donc la haute représentante a dit qu'elle voit en ce moment ces deux derniers aspects préoccupés prévaloir sur, sur le premier. Mais l'idée de continuer à engager la Chine est là, est très importante. Et la chose qu'on a dit très clairement aux Chinois, c'est que leur comportement sur la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine est un élément fondamental pour décider quel sera notre comportement vis-à-vis de la Chine.
Alors, Josep Borrell, l'ancien chef de la diplomatie, donc qui
va s'en aller,
était très engagé sur le dossier du Proche-Orient et notamment a proposé ces derniers jours la suspension du dialogue politique entre l'Union européenne et Israël. Les Tchèques et d'autres pays sont contre. Est-ce qu'on n'aura jamais une diplomatie cohérente et surtout qui pèse dans cette région et dans ce conflit, Israël, Hamas, Hezbollah, Liban, Gaza?
La question du Moyen-Orient, ça fait des décennies qu'elle est là. Il y a aussi des positions politiques, si vous voulez, très établies et très fortes. Donc, c'est vrai que n'a pas été facile d'essayer de trouver un terrain commun entre les 27 États membres. C'est vrai aussi que le conflit est un conflit par ses propres complications qui ne facilite pas une intervention diplomatique de n'importe qui. Si vous voyez, les États-Unis non plus ont réussi à faire beaucoup dans ce conflit. Et ils ont essayé de leur côté. Donc il faut, je crois, à ce moment, essayer de se focaliser sur un certain nombre de choses sur lesquelles il faudra continuer à travailler. Et c'est le feu, c'est le plus nécessaire. La situation des Palestiniens...
C'est d'ailleurs la seule chose sur laquelle les 27 sont
parfaitement
d'accord, c'est le cessez-le-feu.
Tout le monde est d'accord pour cela, parce qu'effectivement, la souffrance du peuple palestinien est terrible, et donc tous nos efforts doivent aller dans cette direction. Et en même temps, il faudra aussi faire tous les efforts possibles pour libérer les otages que Hamas continue à garder sur son territoire. Et à partir de cela, on pourra essayer de bâtir aussi une solution plus politique et pas seulement militaire à la question palestinienne.
Dernier grand sujet, effectivement, pour l'Union européenne, l'Afrique. C'est un continent, effectivement, voisin, qui est un continent qui est de moins en moins ami. Si on regarde les votes au sein de l'ONU, on a du mal à le mobiliser sur nos sujets. On a du mal aussi à être perçu, finalement, autrement que comme des gens qui veulent plus d'influence face à la Chine et face à la Russie, mais sans véritablement mettre des moyens, et puis aussi qui ne s'intéressent qu'aux questions migratoires. Est-ce qu'on va réussir à avoir une autre relation plus équilibrée avec l'Afrique?
C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Je voudrais prendre peut-être votre question sur un autre angle, c'est-à-dire l'Afrique est une grande opportunité. Et pas seulement un défi, un problème. Et c'est sous cet angle qu'il faut regarder la nouvelle façon de travailler avec les Africains. Il faut considérer l'ensemble de la relation qu'on peut avoir avec l'Afrique. Il faut être sur un pied d'égalité avec l'Afrique, voir quels sont leurs intérêts, quels sont nos intérêts, avoir une relation mûre. Pas seulement une relation, comment dirais-je, de sympathie ou d'empathie. Il faut aussi considérer qu'il y a des intérêts en jeu sur lesquels on peut travailler ensemble pour le
bien-être. Y compris climatique d'ailleurs, pas seulement migratoire.
Tout ce que vous voulez. Et là aussi, je voudrais dire, moi je ne voudrais pas seulement prendre l'angle migratoire ou seulement l'angle de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est une partie de la question, mais ce n'est pas la question. La question est comment essayer de faire de sorte que l'Afrique puisse avoir un poids beaucoup plus grand dans sa capacité de décision, dans la solution de ses propres crises, et aussi dans une capacité de travailler avec l'Union européenne de manière plus utile pour tous les deux parties.
Merci à vous Stefano Sanino. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes, l'actualité continue.
Merci à vous.